Galeo, sire des îles lointaines, chapitre 15. Lionel et les larrons. Un jour qu'il traversait un bois épais, il rencontra deux chevaliers larrons et qui ne vivaient que de vol. Il les salua. « Ça, baillez-nous ces deux chevaux et vos armes, » firent-ils. « Quoi, beau seigneur, vous êtes chevalier et voulez dérober un écuyer ? Laissez-moi aller. Vous seriez bien réprouvé si vous me mettiez à pied. » Mais sans répondre, il s'avance, et l'un d'eux saisit le bai brun par le frein. « Beau seigneur, attendez que je descende. » Il saute à bas de son roussin et s'approche du destrier, feignant de vouloir ôter ses armes. Mais soudain, il pose le pied à l'étrier, s'envole en selle comme un émerillon, broche les éperons et part à bride abattue, en priant qu'ils peuvent garder l'autre cheval, mais que celui-ci est trop bon pour eux. Trop mal monté pour tenter d'atteindre le fuyard, l'un des deux chevaliers s'approche du roussin et veut le prendre par la bride. Mais l'animal lui tourne la croupe et rue si félonnement des deux pieds qu'il lui brise l'épaule de sa monture. Après quoi, il s'élance au galop derrière son compagnon d'écurie qu'il aimait de grand amour et qui, pour l'appeler, hennissait si haut et si clair que la campagne en retentissait à plus d'un quart de lieue. Cependant, l'autre chevalier s'était jeté, la lance au poing, à la poursuite de Lionel, qui gardait de trop le distancer, comme il l'aurait pu aisément, car le bébran était vif comme cerf de lande. À un moment même, le chevalier, qui se jugeait à bonne portée, jeta sa lance, pensant férir le valet par le corps. Mais Lionel se baisse pour éviter le coup, s'empare au passage de l'arme fichée en terre et, tournant la tête de son destrier, il revient, bruyant comme la foudre, sur son assaillant qui se couvrait de son écu, lui perce l'épaule d'outre en outre et lui crie en riant « Beau sire, si vous pensez que je vous ai navré à tort, ajournez-moi en la cour du roi Artus de Bretagne. » Là-dessus, comme le roussin arrivait, il le prend par la bride et s'éloigne à telle allure que les deux chevaliers démontés ne tardent pas à le perdre de vue. Chapitre 16. Le chevalier et l'écuyer. Lionel et Gauvain. Le lendemain, Lionel arriva sur la terre du duc Escamp de Cambenic. En passant près du château de Lauverzep, il rencontra des gens qui allaient assister à un combat de justice entre deux champions, et il y fut avec eux. Curieux de bien voir, il poussa ses chevaux au premier rang, non sans bousculer quelque peu les gens d'une demoiselle. L'un d'eux lui dit de reculer, mais il était si attentif au spectacle qu'il n'entendit même pas. Alors, un chevalier saisit son roussin par le frein et le tira en arrière si rudement qu'il pensa renverser l'animal. « Beau sire, que voulez-vous ? » demanda Lionel en le regardant. « Pour un peu, je vous donnerai de ce bâton sur la tête. Tu es un trop malfaisant gars. » Là-dessus, Lionel de tirer son épée. Mais la demoiselle lui crie qu'il s'adresse à un chevalier. « Je ne le toucherai donc pas, » dit le valet en rengainant son arme, « puisque je ne suis qu'écuyer. Mais par la Sainte Croix, s'il était comme moi, il paierait cher ses propos. Sire chevalier, » ajouta-t-il. « Regardez donc la bataille à votre aise. Pour moi, je vois souvent un meilleur preux que ces deux-là. »« Beau frère, » répliqua l'autre en riant, « quel est donc ce preux que tu vois si souvent ?»« Ne vous enchaille, car il vaudrait moins si vous le connaissiez. Mais s'il vous tenait en champ clos, croyez que pour en être hors, vous donneriez toute la terre de Galeo. » Sur ces mots, il s'éloigna. Or, messire Gauvain, qui passait par là, s'était arrêté, lui aussi, à regarder la bataille. Et quand il entendit Lionel parler de la terre de Galeo, il lui vint à l'esprit que ce valet pouvait connaître Lancelot du Lac. Aussi le suivit-il de loin durant quelque temps. Puis il le joignit et lui dit « Valet, je sais bien à qui tu appartiens. C'est à Galeo, que je connais aussi bien que toi. » « Sire, qui êtes-vous ? » « Je suis Gauvain, le neveu du roi Artus. »« Sire, je ne suis point à Galeo. »« Peut-être, mais n'en as-tu point des nouvelles ?
Sire, si j'en sais, je n'en dois pas dire. Ne m'en demandez pas davantage.
Certes, je ne voudrais te pousser à la déloyauté, mais ne peux-tu m'apprendre au moins s'il est en Sorelloy ?
Sire, s'il y était, vous n'iriez pas aisément vous-même. On ne pénètre dans ce pays-là que par deux ponts, défendus chacun par un chevalier. Voilà tout ce que je puis vous dire. »
Et le valet prit congé. Peu après, il parvint à l'ogre, où la reine lui fit grande fête quand elle sut qu'il était cousin germain de Lancelot et neveu du roi Ban de Benoïc. Et en même temps que lui, la nouvelle arriva que les Seines et les Irois étaient entrés en Écosse, où ils gâtaient tout le pays. Sur le champ, le roi Artus envoya des messagers à ses barons afin qu'ils se rendissent dans la quinzaine aux plaines sous la roche aux Seines. Alors la reine pria Lionel de dire à Lancelot qu'il s'y trouva avec Galeot, mais secrètement. Et afin qu'elle pût reconnaître son ami, elle lui manda de porter à son home une manche de soie vermeille qu'elle remit au valet pour lui, et de prendre un écu à bandes blanches. En outre, elle lui envoya en présent le fermail qu'elle avait au cou, sa ceinture, son aumônière et un riche peigne dont les dents étaient pleines de ses cheveux. Chargé de tout cela, Lionel se remit en route. Mais le comte ne dit plus rien de lui à présent, et retourne à parler de Monseigneur Gauvin.
Chapitre 17. Le pont norgalois, Lancelot trouvé. Le soir de ce même jour, il fut couché avec ses écuyers chez l'ermite de la Ronde Montagne, et le lendemain, il vainquit un chevalier nommé Bélinand des Îles qui gardait le pont norgalois et pénétra dans le Sorelloy. Seuls avant lui, le roi Artus, le roi Idier, Dodinel le Sauvage et Mélian d'Ulysse avaient ainsi passé par force. On inscrivit son nom à la suite des leurs sur une table de pierre. Le lendemain, parut un chevalier qui semblait de grande défense et qui se mit en devoir de franchir le pont. Tout aussitôt, Messire Gauvin s'adressa à lui. Les lances étaient fortes et les haubères bien maillées, de manière que les arçons cassèrent, que les sangles rompirent et que les deux champions se portèrent à terre, sans que l'un eût ainsi l'occasion de railler l'autre. Mais ils n'y demeurèrent guère. Ils firent briller leurs épées nues, et vous les eussiez alors regardés volontiers, tant leur prouesse était belle. En peu de temps, ils mirent en pièces leurs écus, leurs haumes et leurs haubères, et ruisselèrent de sang. Mais cela ne les rendait que plus orgueilleux l'un envers l'autre, et la bataille dura jusqu'à none de la sorte. Alors ils se trouvèrent là, au point que les épées leur tournaient dans la main et qu'il leur fallut se reposer. Messire Gauvin s'écarta un peu et essuya sa bonne épée Excalibur, tandis que l'inconnu redressait son aume qui avait un peu tourné parce qu'un des lacets s'en était rompu. Puis tous deux se regardèrent.
« Sire, dit Messire Gauvin, je vous prie par courtoisie de me dire votre nom, car je n'ai jamais trouvé un chevalier que je désire autant de connaître que vous. »«
Sire, vous êtes si prudent que je vous l'apprendrai volontiers. On m'appelle Hector des Mares. S'il vous plaît, je vous prie de me faire connaître le vôtre. » »«
À nul homme jamais il ne fut cédé. Je suis Gauvin, le neveu du roi Artus. »
À ces mots, Hector jette promptement son écu à terre et s'agenouille devant Monseigneur Gauvin en le priant de lui pardonner. Mais l'autre le prit par la main et le mena à la tour du pont. Et là, il voulut à toute force que le nom d'Hector fût inscrit à la suite du sien sur la table de pierre. En vain, le bon chevalier s'en défendit. Messire Gauvin prétendit qu'il s'était avoué outré en s'arrêtant le premier. Le lendemain, ils se mirent en chemin de compagnie pour l'île perdue, où ils apprirent que Galeot séjournait auprès de Lancelot. Et s'ils y eurent bel accueil, il ne faut pas le demander. Mais, au bout d'une semaine,
le sire des îles lointaines et son ami dirent qu'il leur fallait se rendre secrètement à l'armée que le roi Artus assemblait contre les Saines en Écosse.
« Que ferai-je ? » demanda messire Gauvain.
« Car j'ai juré de n'entrer dans aucune des maisons de monseigneur le roi sans apporter des vraies nouvelles de Lancelot. »
Galeot lui répondit qu'il en serait quitte pour n'y point entrer devant que la guerre fût terminée. Alors Lancelot se ferait reconnaître.
À quoi messire Gauvain s'accorda volontiers, et les quatre chevaliers partirent sous des armes déguisées avec Lionel.
Chapitre 18. Siège de la Roche aux Seines.
Sachez que le roi Artus assiégeait alors la Roche aux Seines, proche à Restuel, qui était un château si fort qu'on y redoutait d'autre péril que la famine. Il avait été bâti au temps que le roi Vortigère épousa la fille de Angiste le Seine, et il était alors tenu par Camille, la sœur du roi Ardo Gabran, qui savait plus d'enchantement que demoiselle du pays. Grâce à quoi elle avait tant fait que le roi s'était épris de fol amour pour elle. Le jour même que messire Gauvain arriva avec Hector, il n'eut pas de peine à découvrir ses 19 compagnons de quête, qui étaient venus secrètement, comme lui, au secours de leur seigneur, car devant leur tente, ils avaient placé leurs écus à l'envers, ainsi qu'il avait été convenu. Messire Gauvain leur dit comment il avait mené la quête à bien, et ils résolurent de combattre avec Lancelot, Galeot et Hector, sans se faire connaître. Et dès ce jour-là, les 23 chargèrent ensemble et accomplirent tant de prouesses que chacun s'en ébahit. La reine et ses demoiselles logeaient à quelque distance, derrière l'armée du roi, dans un village. En revenant de la bataille, Lancelot et Galeot allèrent passer avec leurs gens devant cette maison. Et sachez que Lancelot portait à son haume la manche vermeille que lui avait envoyée sa dame, et que son écu était peint d'une bande blanche, ainsi qu'elle l'avait ordonné. Lionel chevauchait à ses côtés, portant ses lances, armées d'un chapeau de fer et d'un haubergeon, comme un sergent.
« Reconnaissez-vous ce chevalier ?»
demanda la reine à la dame de Malleot en les voyant venir. Celle-ci se mit à rire, et Lancelot leva les yeux, comme fit aussi Galeot, et en apercevant sa dame à la fenêtre, peu s'en fallut qu'il ne tombât de son destrier. La reine, cependant, se hâtait de descendre les degrés à leur rencontre. Le haume de Lancelot était tout fendu et décerclé, ses bras rouges de sang jusqu'à l'épaule.
« Comment vous sentez-vous, beau doux ami ? » demanda-t-elle. « Et votre bras n'a-t-il point mal ? Je veux le voir. »
Lancelot mit pied à terre et elle l'embrassa, tout armée, tandis que la dame de Malleot en faisait autant à Galeot. Cependant, elle lui glissait dans l'oreille qu'elle le guérirait le soir même, s'il n'avait plaie mortelle. Et quand les deux compagnons partirent, elle garda Lionel pour lui donner ses instructions.
Chapitre 19. L'écu soudé, les prisonniers de Camille, l'enchanteresse.
Pendant ce temps, Camille, l'enchanteresse, envoyait un messager au roi pour lui dire qu'elle était prête à se donner à lui, s'il se voulait rendre en un lieu qu'elle lui désigna, et elle lui mandait de n'emmener qu'un chevalier à cause des médisants. C'est ici qu'on voit comme amour affole les plus prud'hommes. Car le roi fut au rendez-vous en compagnie du seul Gahurier, son neveu, frère de Gauvain. Et sitôt qu'il fut couché avec sa maîtresse, 40 Seines l'enlevèrent, ainsi que son compagnon. Dans le même temps, Lancelot et Galeot, prévenus par Lionel, sortaient tout doucement de leur tente et gagnaient le logis de la reine. À la porte du jardin, ils trouvèrent la dame de Malleot qui les introduisit en grand secret. Et quand chacun d'eux fut dans une chambre avec son ami, il en fit ce qu'il lui plaisait et eut toutes les joies qu'un amant peut avoir. La reine se leva à la minuit et vint dans l'obscurité tâter l'écu que lui avait apporté la demoiselle du lac. Elle n'y sentit plus de brisure, dont elle fut heureuse, car ainsi sut-elle qu'elle était la plus aimée des femmes. Un peu avant le jour, les deux chevaliers revêtirent leurs armes dans la chambre de la reine. À son tour, la dame de Malleau examina l'écu à la clarté des chandelles, et lorsqu'elle vit que les deux parties en étaient rejointes, elle prit en riant Lancelot par le menton et lui dit « Sire chevalier, il ne vous manque plus que la couronne pour être roi. » De cela il eut grande honte, mais la reine vint à son secours. « Dame, dit-elle, si je suis fille de roi, il en est fils aussi, et si je suis gentille femme et belle, il est aussi noble et beau que moi, ou davantage. » Puis elle pria Lancelot de rester à la cour si le roi le lui demandait, pour ce qu'elle ne voyait plus maintenant comment elle se passerait de lui. Mais cela, elle le lui dit tout bas, de manière que Galeot ne l'entendit, car il en eût été trop dolent. Enfin, les quatre amants se séparèrent après avoir pris rendez-vous pour la nuit suivante. Or, au matin, toute l'armée put apercevoir les écus du roi Artus et de Gaerier pendus au créneau de la roche aux Seines. On en vint annoncer la nouvelle à la reine, qui était encore couchée et qui ne l'a voulu croire tout d'abord. Mais quand elle eut de ses yeux vu les deux écus, quel grand deuil elle mena. Certes, elle attendit la nuit avec impatience pour prendre conseil de son ami. Las, Lancelot ne vint pas, car il fut pris le matin même par sortilège, et Galeot le fut aussi, et messire Gauvin et Hector Desmarres. Et voici comment. Messire Gauvin avait appelé ses trois compagnons à parlement, et il leur demandait s'il leur était avis qu'il se fît connaître, afin de réconforter les barons, troublés par la perte du roi, leur seigneur. Tous quatre se promenaient en délibérant par le bois, lorsqu'ils crurent voir une troupe de cygnes qui mangeait à l'ombre d'un chêne, et d'autre part un chevalier attaché sur un sommier qui se plaignait amèrement. « Seigneur, fit messire Gauvin, c'est Gaerier. » « Je ne sais ce que vous ferez, dit Lancelot, mais je vais aller préparer les écuelles à ceux qui sont assis sous ce chêne. « Moi, je leur verserai du vin dans leur anape, dit Galeot. « En nom Dieu, s'écria Hector, je leur étendrai leur nappe sur l'herbe fraîche. » Aussitôt, les quatre chevaliers de s'élancer. Mais Camille, l'enchanteresse, avait fait surgir là un lac, en lui donnant la semblance d'une prairie, de manière qu'ils y tombèrent par surprise. Et lorsqu'ils en sortirent, à demi étouffés par l'eau qu'ils avaient bue, plus de 100 païens que Camille avait fait cacher alentour leur coururent su, de manière qu'ils furent pris comme oies sur un toit et jetés dans les cachots du château. Et la reine et la dame de Malleau attendirent vainement leurs amis toute la nuit. Il ne faut demander si elles furent dolentes. Le lendemain, qui était jour de bataille, quand ils virent que messire Gauvin ne reparaissait point, ses 19 compagnons se réunirent afin d'aviser à ce qu'ils avaient à faire, et il leur sembla qu'il convenait avant tout de conseiller la reine. Messire Yvain se rendit de leur part à son logis. Il la fit appeler au bas des degrés, car il ne pouvait entrer dans aucune des maisons du roi avant que d'avoir achevé sa quête, et après s'être fait reconnaître, il la réconforta de son mieux. Mais elle se jeta à ses pieds en pleurant et en le priant de veiller sur l'honneur du roi et sur le sien, et à la voir ainsi, il se mit à pleurer lui-même. Car nulle dame ne fut jamais autant aimée des hommes, de son seigneur, que la reine Guenièvre. Ce jour, donc, messire Yvain prit le commandement au lieu du roi Artus, et que le sénéchal porta la grande enseigne, comme c'était son droit. Et le roi Idier parut sur un cheval bardé de fer, ce qui ne s'était encore jamais vu. Beaucoup de gens l'en jugèrent mal d'abord, qui plus tard agirent tout de même que lui. Il fit aussi porter à ses côtés une riche bannière à ses armes, de cordouan blanc à raies écarlates en drap d'Angleterre. Jusqu'alors, on ne les avait faites que de cuir ou de drap, parce qu'ainsi elles étaient plus solides. Enfin, il accomplit de si grands exploits sur son bon cheval, tout le jour, qu'au soir il était tout vermeil de son sang et de celui d'autrui. Et les scènes furent repoussées dans le château. Toutefois, ceux de Bretagne ne purent rester sous la roche, en raison des flèches et des carreaux dont les défenseurs les criblaient, et il leur fallut reculer à distance. Chapitre 20. Le forcené. Lancelot, cependant, menait si grand deuil dans sa prison qu'on ne pouvait le décider à boire ni à manger. Alors sa tête se vida, puis s'emplit de rage et de frénésie, et il se mit à battre et blesser ses compagnons, de sorte qu'on dut l'enfermer seul dans un autre cachot. Vainement Galeot implora le geôlier, disant qu'il aimait 100 fois mieux d'être tué par son ami que d'en être séparé. L'homme, qui était mauvais, ne voulut point les réunir. Toutefois, il fut apprendre à la dame de la Roche qu'un des prisonniers était devenu fou. Elle ne connaissait que Monseigneur Gauvin. « Quel est-il ? » demanda-t-elle. « Dame, c'est un pauvre homme, sans doute. Ses compagnons assurent qu'il ne possède pas seulement 1 pouce de terre. Ce serait donc péché mortel que de ne pas le relâcher. » Et à l'aube, le forcené fut mené hors du château par une fausse poterne. C'est ainsi qu'il se rua soudain au milieu de l'armée, où il se mit à faire un furieux dégât. Il n'avait point d'armes, mais il renversait les tentes, attaquait les dormeurs à coups de poing, à coups de pierre, si bien que tout le monde fuyait devant lui. Et de la sorte, il parvint auprès du logis de la reine. Ah ! Quelle douleur elle sentit quand de sa fenêtre elle le vit en cet état. Elle se pâma dans les bras de la dame de Malheureux. « Dame, lui dit celle-ci quand elle fut revenue à elle, qui sait s'il ne fait pas le fol pour nous voir ?» La dame descend, s'approche de Lancelot et lui veut prendre la main, mais il ramasse une pierre et elle se sauve en criant. La reine, à son tour, s'écrie de frayeur, et au son de cette voix, le forcené passe sa main sur ses yeux, comme interdit. Alors la reine sort, le saisit par le bras, l'emmène dans une chambre sans qu'il résiste. Elle avait envoyé chercher Lionel, mais dès qu'il aperçut le valet, Lancelot lui courut sus, car sa dame seule pouvait le calmer. Sa frénésie le reprenait quand elle s'éloignait. Et ainsi durant 9 jours et 9 nuits. Le 10e, les scènes firent une sortie. « Ah, la fleur des chevaliers !» s'écria la reine en pleurant. « Que n'êtes-vous en votre bon sens ? Cette mortelle bataille serait menée à bien. » À ces mots, Lancelot saute sur une vieille lance qui était dans un coin et s'adresse à un pilier sur lequel il la brise. Puis il se met à courir dans la salle, heurtant les murs et les portes comme un furieux, avise enfin l'écu naguère fendu qu'avait envoyé la dame du lac, le passe à son cou et tout soudain se pâme de faiblesse, tandis que la reine s'évanouit de douleur. À ce moment, on vit entrer une dame, belle et de haute taille, vêtue de soie blanche comme neige neigée, qui s'avança vers le forcené et le prit par le poing. « Beau fils de roi, commanda-t-elle, revenez à vous. » Sur le champ, il se lève, comme honteux, et peu à peu, il retrouve son droit sens et se met à pleurer en reconnaissant celle qu'il avait élevée. Elle le fait étendre sur un lit, lui oint les poignets et les tempes d'un onguent qui l'endort. « Dame, dit-elle à la reine, qu'on le laisse sommeiller tout son soûl. À son réveil, vous lui ferez prendre un bain parfumé de bonnes herbes, et quand il en sortira, il sera guéri. » Mais gardez qu'il porte en bataille un autre écu que celui-ci, tant qu'il pourra durer. Dame, ne me direz-vous pas qui vous êtes ? Je suis la dame du lac. Quand elle entendit ce nom, la reine sentit l'eau du cœur lui monter aux yeux.
Elle courut à la dame, lui mit les bras au col. « Soyez la bienvenue, belle douce amie, vous que je chéris et que j'honore le plus au monde. Dame, dame, aimez sur toute chose celui pour qui rien ne vaut que vous. C'est grande folie que de pécher, et certes il y a folie en vos amours, mais vous pouvez vous flatter que nul autre jamais n'eut le pouvoir que vous avez, car vous êtes la compagne du plus prud'homme et la dame du meilleur chevalier du monde. Et en gagnant Lancelot, vous m'avez gagné aussi. Pourtant il me faut partir, car la plus grande force qui soit m'entraîne, et c'est la force d'amour. Mon ami ne sait à cette heure où je suis, et je ne veux lui faire peine. Peut-on, quand on aime, avoir une autre joie que celle de ceux qu'on aime ?» Quelque temps elles causèrent de la sorte, mais la reine pria vainement la dame du lac de demeurer. Quand Vêpre approcha, celle-ci embrassa la reine et la recommanda à Dieu. Puis elle s'éloigna, montée sur son blanc pâle froid. Chapitre 21. Prise de la roche aux Seines. Lancelot guéri, il n'est joie que l'amour puisse donner tant il n'eut sa part. Le comte n'en dit pas plus là-dessus. Et quand fut le 9e jour, il était redevenu aussi beau que jamais. Souvent il demandait à la reine qu'elle lui permît d'aller jouter, mais elle répondait qu'il n'était pas encore assez bien guéri. Enfin, un matin que l'on criait par toute l'armée « Or, tôt aux armes, seigneur baron, on verra qui pressera !» Elle le vit si dolent et si triste qu'elle commanda en soupirant d'apporter les meilleures armes qu'on pourrait trouver, et elle voulut lasser elle-même le haume de son ami. Mais auparavant, elle le baisa tendrement en le recommandant à celui qui fut mis en croix. La mêlée était déjà commencée quand Lancelot parut. Lionel portait à côté de lui le pennon de la reine, qui était d'azur à 3 couronnes d'or et 1 seul aigle. « Seigneur, cria Messire Yvain en les voyant venir, voici le pennon de madame. » Tel un lion qui saute entre les biches, non pour grande fin qu'il ait, mais pour montrer sa force et sa vitesse, tel Lancelot entre les Seines. Il ne semblait pas un homme, mais la vengeance de Dieu. Messire Yvain et tous les autres éperonnaient derrière lui. « C'est folie que d'attendre un tel chevalier !» pensèrent les païens lorsqu'ils virent les merveilles qu'il faisait. Et en s'enfuyant vers le château, ils se pressèrent tant sur la chaussée qu'il s'en noya bien 20 dans les fossés. Lancelot, suivi des gens du roi Artus, pénétra dans la forteresse mêlée aux fuyards, et tout d'abord il courut à la chambre de Camille. Elle était couchée auprès de son ami Gadras Olin. Il hausse l'épée, fend au valet la tête jusqu'aux épaules, puis il saisit la dame par ses tresses. « Rendez les prisonniers ou je vous trancherai le cou. » Alors elle les conduisit au cachot. Quelle joie eut Galeot lorsqu'il retrouva son ami. « Sire, dit au roi Messire Gauvin, voyez Lancelot du lac que nous avons tant cherché. » Oyant cela, le roi tomba à genoux, disant qu'il mettait en la merci de Lancelot sa personne, son honneur et toute sa terre. Mais quand le bon chevalier le vit s'humilier ainsi, il se mit à pleurer et se hâta de le relever. À ce moment, la reine entrait. Elle alla droit à Lancelot, lui jeta les bras au cou et le baisa devant tous. « Sire chevalier, dit-elle, je ne sais qui vous êtes, à mon grand regret, mais pour l'honneur de mon seigneur et le mien que vous avez sauvé aujourd'hui, je vous offre mon affection comme loyale dame la peut donner à loyal chevalier. « Dame, dit le roi, sachez que ce chevalier est Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Benoïc. » Et la reine feignit d'être fort étonnée et se signa plusieurs fois. Pendant ce temps, que le sénéchal visitait le château. Dans un souterrain, il trouva une demoiselle enchaînée, qui lui apprit qu'elle était ainsi enfermée depuis 3 ans, parce que Gadras Olin l'avait jadis aimée. « Camille s'est-elle échappée ? » demanda-t-elle. si elle emporte ses livres et ses boîtes, vous êtes perdu, car elle peut faire jaillir un lac où vous disparaîtrez tous avec le château. »
« Et où sont-ils ? » demanda Queue.
La demoiselle le mena à un coffre qu'il prit et jeta au feu. Et lorsque l'enchanteresse sut que ses livres étaient en cendres, elle en eut une telle douleur qu'elle se précipita du haut des murs. Dont le roi fut très chagrin, car il l'aimait encore. Les tables mises, tous s'assirent, et après qu'ils eurent mangé, le roi s'approcha de Galeot et le pria de permettre que Lancelot fût désormais de sa maison et de la table ronde.
« Ah, sire !» s'écria Galeot, « je ne saurais vivre sans lui. Voulez-vous ma mort ?»
Mais la reine, sur l'ordre du roi, se mit à genoux pour le prier de consentir. Et à la voir ainsi, le cœur de Lancelot se serra tant qu'il ne put se tenir de crier.
« Dame, je resterai auprès de mon seigneur. »
« Puisqu'il en est ainsi, je vous l'octroie, » reprit tristement Galeot. Le roi le remercia et il le pria de devenir lui-même, non son chevalier, mais son compagnon et son ami. Puis il retint également Hector. Ainsi, Lancelot du Lac, Galeot et Hector s'assirent à la table ronde, et les grands clercs furent mandés pour mettre en écrit tout ce qui s'était fait d'armes depuis l'assemblée de Galaure. Au reste, c'est par eux que nous connaissons le comte de Lancelot, qui est une branche du Graal.
Chapitre 22. Le songe de Galeot et l'orgueilleuse emprise. Le comte dit maintenant que peu après, Galeot dut s'en aller pour régler les affaires de sa terre. Bien folle est celle qui aime d'amour un si haut et riche homme, pensa la dame de Malheot, car jamais elle ne fait de lui à sa volonté. Lancelot eût préféré de rester auprès de la reine, mais il accompagna son ami, qu'il aimait plus qu'homme au monde. Et Galeot lui-même était dolent de quitter la dame de Malheot, mais il le cachait du mieux possible. Et d'ailleurs, il se disait que, s'il plaisait à Dieu, il reviendrait sous peu. Le soir, ils couchèrent dans une maison de religion où Galeot eut un mauvais songe. Il le conta à son compagnon tout en cheminant le lendemain. « Il me semblait voir deux lions, dont l'un portait couronne, qui se livraient la plus fière et orgueilleuse bataille qu'on puisse imaginer. Et tandis qu'ils combattaient ainsi, un grand léopard survint qui se mit à les regarder. » Au bout d'un moment, le couronné eut le dessous, car l'autre était de trop grand pouvoir. Aussitôt, le léopard alla le protéger, et le sans-couronne n'osa plus l'attaquer. Et quand le couronné eut repris son souffle, le léopard se retira, et la mêlée des deux lions recommença. Et à nouveau, le couronné fut déconfit, le léopard intervint, et le sans-couronne se tint coi. Puis, quand le léopard s'approcha de lui, il vint à sa rencontre à grande joie. Alors le léopard fit la paix des deux lions. Après quoi, il s'en fut avec le sans-couronne. Mais enfin, il le quitta, dont celui-ci demeura si triste qu'il en prit la mort. Si par clergy on peut connaître le sens de ce rêve, je m'en enquerrai.
Beau très doux ami, dit Lancelot, vous êtes trop sage homme pour croire aux songes.
À ce moment, les deux compagnons arrivaient en vue d'un fort château que Galeot avait fait nouvellement construire et qu'il avait lui-même nommé « l'orgueilleuse emprise », tant il était fier et beau. Et tout autour de la roche sur laquelle il était assis, coulait une eau large et profonde, fréquentée par beaucoup d'oiseaux de marais, et où l'on prenait autant de saumons qu'on voulait. Puis la forêt s'étendait non loin, abondante en bêtes rousses et commode pour la chasse, si bien que c'était là le plus agréable séjour.
« Beau compagnon, dit Galeot, si vous saviez à quel dessein j'entrepris de bâtir ce fort château, vous me croiriez folle. J'y fis faire 30 créneaux à la maîtresse Tour, parce que je comptais conquérir autant de royaumes. J'en eusse fait venir les 30 rois ici, et j'eusse tenu une cour grande et magnifique, comme il appartenait à ma hôtesse. Et au sommet de chaque créneau, j'eus fait placer, sur un candélabre d'argent de la taille d'un homme, la couronne du roi conquis, et la mienne au-dessus de toutes, au faîte de la tour. Puis la nuit, on eût planté sur des candélabres des cierges assez gros pour qu'aucun vent ne les pût éteindre, et le mien eût brillé sur tous les autres. Depuis que le château a été achevé, pour triste que j'y sois entré, jamais je n'en suis sorti que joyeux. C'est pourquoi je m'y rends à présent, car j'ai grand besoin de réconfort.
Sire Dieu, pensait Lancelot en l'écoutant, comme il me devrait haïr qu'il ait empêché de faire tout cela.
Et les larmes lui coulaient des yeux sous son aume, mais il prenait garde que Galeot ne s'en aperçût. Cependant, ils arrivaient à un trait d'arc défaussé. Alors advint une merveilleuse aventure, car les murs soudain tremblèrent et ondulèrent comme une étoffe sous le vent. Puis ils s'écroulèrent et toute la forteresse s'effondra. Galeot demeura tout d'abord si étonné qu'il ne put que se signer sans sonner mot. Mais, comme Lancelot se peinait fort à le consoler, il sourit et lui dit « Comment, beaux doux amis, croyez-vous que ce soit la chute de mon château qui m'angoisse de la sorte ? Jamais personne ne me verra navré d'aucune perte que j'ai faite de bien ou d'avoir. Ce qui m'émeut, c'est que mon cœur m'annonce de grands maux à venir, et lequel pourrait être plus grand que celui de vous perdre ? Je souhaite que Dieu ne me laisse pas vivre un seul jour après vous. Et si Madame la Reine avait aussi bon vouloir envers moi que j'ai envers elle, elle ne vous arracherait pas à moi. Mais j'ai bien vu qu'elle ne s'en peut empêcher. Sachez pourtant que, lorsque je perdrai votre compagnie, le siècle perdra la mienne. » Tout en causant ainsi, ils parvinrent au bourg qui était sous la forteresse, où les écuyers de Galeot avaient fait apprêter son logis, et les habitants s'émerveillèrent de voir leur seigneur si peu escorté, car il avait accoutumé d'avoir toujours une grande suite de chevaliers. De là, il envoya des messagers convoquer ses barons à Sorehaut, qui était la maîtresse citée du Sorelois, 15 jours avant la Noël. Puis il fit écrire une lettre au roi Artus, où il le priait, comme son seigneur et son bon ami, de lui envoyer les plus sages clercs qu'il pourrait trouver, car il en avait très grand besoin pour déchiffrer son rêve. Et, appelant Lionel, il le chargea de la porter. Le lendemain, les deux compagnons se remirent en chemin, et ils allèrent tant que, le jour suivant, ils parvinrent à 10 lieues d'Alentive. Et là, Galeot vit venir à sa rencontre son sénéchal, qui était loyal, épreux, et son parent éloigné. Il courut l'embrasser, mais l'autre faisait bien triste mine. « Ai-je donc perdu quelqu'un de mes compagnons ?» demanda Galeot. « Nenni, sire, Dieu merci, mais dans le royaume de Sorelois, il ne reste plus une forteresse. Toutes, elles se sont écroulées le même jour. » Alors Galeot hocha la tête en souriant. « Ami, jusqu'ici je vous avais tenu pour sage. Comment avez-vous pu penser qu'aucune perte m'attristât si ce n'est celle d'un ami ?» Mais le comte se tait maintenant de lui et de Lancelot, voulant reprendre le propos du roi Artus qu'il a laissé depuis longtemps. Chapitre 23. Les deux guenièvres. Quand Lionel fut parti pour faire son message, il chevaucha tant sur son roussin qu'il parvint en la cité de Camaalot, où le roi reçut ses lettres et lui fit très bonne chère, en le priant de séjourner jusqu'à l'arrivée des clercs que lui demandait Galeot et qu'il avait envoyé quérir. Or, un jour que le roi était assis à son haut manger, entouré de ses barons, une demoiselle descendit devant le palais, accompagnée d'un chevalier tout vieux et tout chenu. En entrant dans la salle, elle laissa tomber son voile, et l'on vit une pucelle d'une grande beauté, richement vêtue de draps de soie,
dont les cheveux étaient réunis en une seule tresse longue, épaisse, claire et luisante. « Dieu sauve le roi et toute sa compagnie, » dit-elle. « Demoiselle, » répondit le roi, « Dieu vous donne bonne aventure. » Là-dessus, le vieux chevalier, qui était entré avec la pucelle, remit à celle-ci une boîte d'or et de pierres précieuses, et elle en tira une lettre qu'elle offrit au roi. « Sire, avant que de faire lire ces lettres, réunissez séant toute votre maison, jusqu'aux dames et demoiselles, car sachez qu'il y est question d'une haute et grande affaire. Il convient que tout le monde les entende. » Le roi envoya donc quérir la reine Guenièvre avec ses dames et tous les prêtres, chevaliers et sergents de sa maison. Puis, devant eux, il reçut la lettre et la bailla à celui de ses clercs qu'il savait le mieux disant et de meilleur sens. Mais, dès qu'il y eut jeté les yeux, le clerc regarda la reine, qui était appuyée sur l'épaule de Monseigneur Gauvin, assis à ses pieds, et il se prit à pleurer si fort qu'il n'eût su prononcer un seul mot. Lui eût-on dû couper la tête. Le roi, ébahi, appela un autre clerc, qui prit la lettre à son tour, mais il la rejeta bientôt dans le giron de son seigneur et s'en alla, faisant le plus grand deuil du monde. Alors le roi envoya quérir son chapelain, et tout troublé, le conjura, sur la messe qu'il avait chantée, de lui lire tout ce qui se trouvait écrit sans en rien céder. Et le chapelain, après avoir parcouru la lettre, soupira et dit « Hélas, sire, il me faudra prononcer des mots qui me mettront toute cette cour en tristesse. » Puis il lut ce qui suit. La reine Guenièvre, la fille du roi Léodagan de Carmélide, salue le roi Artus ainsi qu'elle doit, et toute sa compagnie, barons et chevaliers. Roi, je me plains de toi premièrement, car il ne convient pas à un roi de tenir une femme en concubinage, comme tu fais. C'est vérité prouvée que je fus unie à toi par loyal mariage. Mais, soit par ta volonté ou par le conseil d'autrui, l'on mit en ma place celle qui était ma servante et me serve. Cette traîtresse Guenièvre, que tu tiens pour ton épouse, m'a jeté hors de mon royaume et déshérité. Mais Dieu, qui jamais n'oublie ceux qui s'abandonnent à sa merci, m'a délivré de ses mains. Je requiers que de cette déloyauté soit prise vengeance par le jugement de ta cour, et que tu amendes tes forfaits passés. Et parce que je ne puis écrire tout ce que je te veux mander, je t'envoie mon cœur et ma langue. C'est la pucelle qui t'apporte ces lettres. Je veux que tu croies ce qu'elle te dira de par moi. Quant à celui qui l'accompagne, c'est le plus loyal des chevaliers qui sont aux îles de la mer. » Le chapelain se tut, et tout le monde demeura interdit. Le roi, après un long silence, regarda la pucelle. « Demoiselle, dit-il, vous pouvez parler, puisque vous portez le cœur et la langue de votre dame. Et je voudrais savoir quel est ce chevalier qui est le plus loyal de tous ceux des îles de la mer. » La demoiselle prit son vieux compagnon par la main et le mena devant le roi. Il était ridé et chenu et semblait de très grand âge. Son visage était pâle et plein de cicatrices et la peau de sa gorge pendante. Mais il avait les épaules larges et fournies. Il était haut et puissant, et il se tenait comme un jeune homme. « Sire, dit la demoiselle, quand vous vîntes en Carmélide servir comme soudoyer le roi Léodagan avec toute votre compagnie, messire le roi vous donna sa fille, la plus vaillante dame qui soit. Mais, au matin de votre nuit de noces, lorsque vous vous fûtes levée, madame fut trahie et déçue par celle en qui elle se fiait le plus, car elle fut ravie, et cette demoiselle-ci, qui se fait appeler Guenièvre, fut couchée dans le lit à la place de madame. Et vous ne vous aperçûtes de rien, tant était merveilleuse la ressemblance entre elles deux.
On enferma madame dans une prison, et cette demoiselle-ci croyait bien qu'elle avait été tuée. Mais madame fut sauvée par la volonté de Dieu, et grâce à ce chevalier qui la délivra par ruse et engin. Maintenant, elle est revenue au royaume de Carmélide, dont les barons l'ont reconnue et lui ont rendu sa terre. Et elle demande que vous lui teniez vos serments et que vous la repreniez comme votre loyale épouse, faisant justice de celle qui l'a mise en péril de mort. Et si vous, ou tout autre, vouliez prétendre que madame n'a pas été trahie, je suis prête à prouver le contraire, en votre cour ou ailleurs, par un chevalier loyal et preux. »
Quand la demoiselle eut ainsi parlé, toute la cour demeura saisie de stupeur, et le roi se signa plusieurs fois coup sur coup.
« Dame, dit-il à la reine, levez-vous et disculpez-vous de ces choses dont on vous accuse. Dieu m'aide, si vous étiez telle que dit cette demoiselle, vous que l'on tenait pour la plus vaillante dame du monde, vous en seriez la plus déloyale et la plus fausse. »
La reine se mit debout, et elle n'avait pas la mine d'une femme intimidée. En même temps qu'elle, se levèrent ducs et comtes. Mais messire Gauvain l'accompagna jusque devant le roi et prit la parole pour elle. « Demoiselle, dit-il à la pucelle, nous voulons savoir si c'est de madame la reine que vous avez parlé comme vous avez fait.
Je n'ai point parlé d'une reine, mais de cette fausse guenièvre que voici, qui commit la trahison.
En nom Dieu, madame est bien pure de trahison. Pour un peu, vous me feriez oublier la courtoisie à laquelle je n'ai jamais manqué envers une dame. Et je vous dirai que vous avez énoncé les plus grandes folies que femme ait inventées. Et quand même tous ceux de votre pays l'auraient juré, cela ne rendrait pas plus vrai ce que vous dites.
Sire, ajouta-t-il, voyez-moi tout prêt à défendre madame la reine contre le corps de n'importe quel chevalier, et à jurer qu'elle est votre compagne épousée en loyal mariage.
« Sire chevalier, répondit la demoiselle, il serait bien raison que je connusse votre nom. »
« Il n'a jamais été caché par crainte d'autrui. On m'appelle Gauvain. »
La demoiselle sourit. « Messire Gauvain, je suis plus aise maintenant qu'avant de savoir votre nom, car je vous connais si prud'homme et si loyal que vous n'attesteriez point par serment de telles paroles, fût-ce pour le royaume de l'ogre. Toutefois, si vous osez risquer la bataille, vous l'aurez.
« Berthollet, dit-elle au vieux chevalier, êtes-vous prêt à soutenir le droit contre monseigneur Gauvain ou tout autre ?»
Le vieillard s'agenouilla devant le roi et offrit son gage. Mais, en le voyant si âgé, messire Gauvain se détourna dédaigneusement. Et Dodinel le sauvage s'écria « Amenez de votre pays le meilleur champion que vous trouverez, demoiselle, et messire Gauvain le combattra. Ou même amenez trois chevaliers de votre terre, et aidez de moi seul, qui suis le pire des compagnons de la table ronde, il les combattra encore. Mais voulez-vous qu'il joute contre un homme de cet âge, qui a la mort entre les dents ? On y soit qui le ferait. »
Sire chevalier, repartit la demoiselle, j'ai amené celui-ci parce qu'il est le meilleur de notre pays. Si vous avez si grande pitié de monseigneur Gauvain, vous entreprendrez vous-même la bataille.
Sire Dieu, autant combattre un mort.
Et Dodinel cracha à terre de mépris, puis se tournant vers le roi, sire, il faudrait l'opposer à Dos de Carduel, qui n'est pas trop jeune. Il était déjà renommé avant que votre père fût encore chevalier. » Tous se mirent à rire, mais le roi releva Berthollet par la main. « Demoiselle, dit-il, je ne veux pas décider d'une si haute chose sans conseil et sans assembler mon baronnage. Dites à votre dame que je l'ajourne à la Chandeleur et qu'elle vienne à Bédingrand, dans la marche d'Irlande et de Carmélide. Ce jour-là, car j'entends que la chose soit jugée par mes barons et ceux de Carmélide ensemble. Mais qu'elle garde d'avancer rien qu'elle ne puisse prouver, car par ce dieu de qui je tiens mon sceptre, celle des deux qui sera reconnue coupable, j'en tirerai une vengeance dont il sera parlé à toujours. Et vous, dame, fit-il à la reine, soyez ce jour-là prête à vous défendre.
Sire, j'attends le jugement de votre cour. Dieu m'y donne d'honneur pour autant que je suis innocente.
Chapitre 24. L'amitié de Galeo. Lionel partit le lendemain, accompagné des saints plus sages clercs du royaume de l'Ogre, et ils chevauchèrent tant qu'ils arrivèrent en Saurelois. Quand Galeo apprit ce qui s'était passé à la cour du roi Artus, il songea d'abord à la douleur qu'éprouverait Lancelot s'il le savait. Aussi défendit-il à tous ceux qui étaient près de lui d'en rien dire. Néanmoins, il ne fut guère que Lancelot ne s'en trouvât instruit. Ah, quel chagrin quand il connut que sa dame était accusée.
« Beau doux ami, lui dit Galeo, je ne vous en osais parler, mais ce qui advient est peut-être ce qui peut arriver de mieux à deux amants. Et s'il vous plaît, je vous donnerai un conseil. Écoutez, si le roi Artus la répudie, Dieu l'en garde, je donnerai à madame la reine le meilleur royaume qui soit en toute la Bretagne bleue. C'est celui où nous sommes. Qu'elle vienne et qu'elle en soit dame dorénavant. Et vous pourrez l'aimer sans péché et sans vilenie après l'avoir épousée par loyal mariage. Si son cœur est aussi vrai qu'il semble, elle aimera mieux être dame d'un petit royaume avec vous que reine de tout l'univers sans votre compagnie.
Ah, sire, c'est là ce que je souhaiterais le plus au monde. Mais le roi a juré qu'il la ferait périr si elle était convaincue de ce crime. Non, elle ne mourra pas s'il plaît à Dieu et à vous, en la garde de qui je me suis mis après celle de notre Seigneur. Je vous supplie de m'aider au nom de Dieu et du grand amour que vous avez pour moi, et qui vous a coûté déjà de perdre, en un seul jour, l'espoir de conquérir 30 royaumes. »
Là-dessus, Lancelot se mit à pleurer si fort que la parole lui manqua, et, joignant les mains, il tomba aux genoux de son ami. Mais celui-ci l'embrassa, et tous deux, menant grand deuil, s'assirent côte à côte. Et Galeo, qui était plus sage et plus maître de lui, se reprit le premier et commença de réconforter Lancelot, disant
« Beau doux ami, consolez-vous. Il n'est rien que vous voudrez commander que je n'accomplisse par force ou par ruse. Dussé-je perdre toute ma terre et tous mes amis? C'est vrai, j'ai fait pour vous maintes choses qui me seront comptées plutôt à folie qu'à sagesse. Mais c'est qu'à tous les biens de ce monde, je préfère votre compagnie et votre amour. Si je vous perdais, je serais mort sans retour. Quand vous serez auprès de madame la reine, faites qu'elle accepte ce que je viens de dire. Ainsi, nous pourrons vivre ensemble à toujours. Et sachez que, moi qui n'ai jamais commis félonie ni trahison, j'avais dessein d'aller, avec 100 chevaliers armés sous leurs robes, surprendre le roi Artus la première fois qu'il viendrait dans cette marche, et enlever madame la reine pour la mener ici, près de vous. Mais c'eût été trahison trop laide, et si madame se fût courroucée, vous en eussiez perdu le sens, ou vous en seriez mort.
« Sire, dit Lancelot, vous m'eussiez tué. N'entreprenez rien de tel sans mon conseil, car si elle s'en irritait, jamais plus je ne connaîtrais sa joie. »
Chapitre 25. La signifiance du songe. Les deux amis causèrent longtemps ainsi. Puis Galeo manda les clercs que le roi Artus lui avait envoyés et les réunit dans sa chapelle, en présence du seul Lancelot. Là, il leur fit jurer sur les saints de ne rien lui cacher de ce qu'il pourrait découvrir, par clergy, de la signifiance de son rêve, que ce fût pour sa douleur ou pour sa joie. Après quoi, il leur conta sa vision, dont ils furent très ébahis. « Sire, dit le plus sage, qu'on appelait maître Élie de Toulouse, il faut grand loisir pour mener à bien une si haute chose,
car il n'est philosophe dans le siècle qu'il n'y aurait beaucoup à étudier. Donnez-nous un répit de 9 jours. »
Galeo consentit, mais quand le 10e jour fut venu, il les réunit à nouveau. Le premier d'entre eux, qui avait nom Boniface de Rome, dit qu'il avait fait une conjuration au moyen de quoi il avait découvert quel était le lion couronné.
« C'est le roi Artus, et le lion sans couronne, c'est vous-même. Mais je n'ai pu apprendre ce que signifie le léopard. J'ai vu seulement que vous l'emmeniez en votre compagnie. »
Le second clerc, maître Elias de Hardol en Hongrie, confirma ce que son compagnon avait découvert, puis il pria Galeo de permettre qu'il n'en dît pas davantage.
« Beau maître, ce ne peut être. Parlez, ou je vous tiendrai pour parjure et foi menti.
Sire, sachez donc qu'un jour le léopard partira, et que le lion sans couronne en demeurera si désespéré qu'il prendra la mort. »
À ces mots, Galeo demeura longtemps pensif et silencieux. Enfin, il invita le 3e clerc à parler. Celui-là était né au royaume de l'Ogre, dans un château nommé Ludevoix, qui était à 6 lieues du Gué des Bois, où Merlin disait que toute sagesse un jour descendrait. On l'appelait Pétroine, et c'est lui qui mit les prophéties de Merlin en écrit.
« Sire, le léopard signifie celui qui fit la paix de Monseigneur le roi Artus et de vous. Et c'est le fils du roi qui mourut de deuil et de la reine aux grandes douleurs. »
Le 4e clerc, qui était de Cologne, la bonne cité, prononça à son tour.
« Sire, maître Pétroine a bien dit, mais j'ai vu quelque chose de plus. J'ai trouvé qu'il vous faudra franchir une rivière grande et profonde sur un pont de 45 planches, et que vous tomberez à l'eau, et que vous irez au fond sans revenir. 45, c'est le terme de votre vie. Mais je ne puis vous dire si chaque planche signifie 1 an, 1 mois, 1 semaine ou 1 jour. »
À entendre cela, Lancelot eut grand deuil, et Galeo sentit l'angoisse en son cœur. Alors maître Élie de Toulouse le requit de faire sortir le chevalier, son ami, et l'éclair.
« Sire, dit-il, vous êtes un des plus sages princes de ce monde, mais gardez toujours de rien prononcer devant celui ou celle que vous aimez. »
Qui puisse mettre son cœur en malaise. Je vous dis cela pour ce chevalier qui d'ici s'en est allé, car je sais bien que vous l'aimez du plus haut amour qui se puisse entre 2 compagnons loyaux. Et le léopard de votre songe, c'est lui.
Mais beau maître, le lion n'est-il pas une plus fière bête que le léopard et de plus grande seigneurie? Le meilleur des chevaliers devrait avoir semblance de lion.
Sire, il y aura un jour un chevalier meilleur que Lancelot. Merlin l'a prédit dans ses prophéties. Celui-là achèvera les aventures de Bretagne et s'assoira au siège périlleux de la Table Ronde, où nul ne prit place sans mourir. Et il sera vierge, car il le faut être pour accomplir l'aventure du Saint Graal. Le fils du roi qui mourut de deuil et de la reine aux grandes douleurs ne l'est point. Et sachez que, si Madame la reine est présentement accusée de vilenie, c'est en punition du péché qu'elle a commis avec lui, et de sa déloyauté envers le plus prud'homme du monde, qu'elle honnit. Mais, quant aux 45 planches, ne vous en mettez pas en peine. Il n'est point d'homme, en effet, qui eût la moindre joie au cœur s'il connaissait le terme de sa vie, car il n'y a rien d'aussi épouvantable que la mort.
Bon maître, il vous faut tenir votre serment. S'il plaît à Dieu, pour grande qu'en soit la douleur de mon corps, mon âme sera heureuse de savoir quand je dois mourir, car je tâcherai de bien faire, et je m'en hâterai davantage que si j'avais à vivre tout un grand âge. Il serait temps que je me repentisse de mes péchés. »
Sire, nous trouvons en un livre que l'on appelle « La vie des pères » qu'en la terre de Toscane, il y avait jadis une dame de très grande richesse qui avait longtemps mené folle vie. non loin d'elle, au milieu d'une forêt, vivait un saint homme ermite. Elle fut le voir, et par ses bonnes paroles, il l'amenda beaucoup. Une fois pourtant, il lui révéla qu'elle n'avait plus que 30 jours à vivre, et l'avertit de s'efforcer à bien faire jusque-là. Mais, à cette nouvelle, la dame sentit trembler sa chair et son cœur frémir, et elle désespéra, si bien que les diables se mirent en elle, et qu'elle oublia le salut de son âme à cause de la peur de son corps. Pourtant, l'ermite cria merci à notre Seigneur pour elle, et Dieu l'entendit. Dans la chapelle, une voix annonça au prud'homme que le don qu'il demandait lui était accordé. Il vint au lieu où la dame était, et elle pleura lorsqu'il entra, tant les diables la tourmentèrent à ce moment. Mais, sitôt que le prud'homme eut fait de sa main le signe de la vraie croix sur elle, ils sortirent de son corps en criant, braillant et hurlant si fort que toute la terre en tremblait. Elle abandonna le siècle, coupa ses tresses, prit une robe de religion et vécut jusqu'à sa mort sur un haut tertre entre deux rochers, en compagnie d'une seule pucelle. Et à cela, vous pouvez voir que c'est un vil péché que de désespérer, car c'est du jour où elle le fit que le Saint-Esprit l'abandonna et que les diables entrèrent en elle. De même, Saint-Pierre s'enfonça dans la mer, sitôt qu'il eut peur. Ainsi en advient-il des gens qui veulent savoir le jour de leur mort. De la terreur de la chair peut naître le désespoir. Mon conseil est que vous laissiez de chercher cette folie, et que vous vous peigniez à faire le bien, comme si vous n'aviez à vivre que 30 jours. Mais Galeot insista si fort que Maître Élie dut consentir, en pleurant, à tenir son serment. Sur le champ, il fit apporter des charbons éteints, et il traça sur le mur de la chapelle 45 roues pour signifier les années, puis 45 roues plus petites, et c'était la signifiance des mois, puis 45 roues plus menues, et c'était la signifiance des semaines, puis 45 roues minimes, et c'était la signifiance des jours. Cela fait, il recommanda à Galeot de ne s'ébahir de rien. Puis il fut prendre sur l'autel la croix d'or et de pierres précieuses qu'il garda entre ses mains, et la boîte contenant le corpus domini qu'il bailla à Galeot. Enfin, il tira de sa poche un livret où il se mit à lire, jusqu'à ce que son visage rougît et que la sueur lui coula sur la face. Au bout d'un moment, il s'arrêta et gémit. Puis il reprit sa lecture en tremblant de tous ses membres. Alors une obscurité se répandit, et une voix se fit entendre, si hideuse et si épouvantable qu'elle résonna dans toute la cité de Soreau, et que Galeot, terrifié, s'accroupit en se cachant les yeux de sa boîte, tandis que Maître Élie tombait sur le dos, la croix sur sa poitrine. Puis l'obscurité se dissipa, mais la terre se mit à trembler, et un bras long à merveille sortit du mur, vêtu jusqu'au coude d'une manche de samite jaune, et du coude jusqu'au poing de soie blanche. La main, vermeille comme charbon embrasé, tenait une épée rouge de sang, dont elle voulut férir Maître Élie, qui lui opposa la croix, puis Galeot, qui mit la boîte à l'encontre. Alors l'épée fit des moulinets autour d'eux. Enfin, elle alla frapper le mur, trancha 42 des grandes roues et autant dans chaque rangée des autres. Après quoi, elle disparut par où elle était entrée. Ah, maître, dit Galeot, vous m'avez bien tenu votre promesse, et je sais maintenant que j'ai encore à vivre 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Sire, vous pourrez bien dépasser ce terme avec l'aide de Lancelot, car vous ne mourrez que parce que votre compagnon vous laissera. Toutefois, vous ne devez découvrir à personne le secret du tout en tout. » Ils sortirent de la chapelle, et Galeot se prit à songer que c'était plutôt de la reine que dépendait son sort, car sans doute c'était elle qui lui ferait perdre la compagnie de son ami. Toutefois, comme il trouva Lancelot les yeux rouges des larmes d'angoisse qu'il avait versées, il lui fit très joyeux visage. « Beau compagnon, lui dit-il, n'ayez point de chagrin, car je suis tout aise de ce que j'ai appris. C'est que les 45 planches signifient les années que j'ai encore à vivre, et maître Élie m'a révélé que de vous ne me viendrait nul chagrin.